Bonsoir et bienvenue dans ce 21e épisode de la 3e saison de Culture Sang et Or, l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple sang et or. Un lance en rebond qui a retrouvé le goût de la victoire en E-League 1, c'était hier en s'imposant à Bollard 3 buts à 1 face à Nantes. Qu'avez-vous pensé de ce match? Dites-le nous dès maintenant en commentaire, on y revient sur le match dans un instant. La pause, on jouera avec le quiz de Culture Sang et Or en deuxième partie d'émission. Avec les chroniqueurs, on reviendra sur la période délicate qu'a vécu le Racing depuis janvier. Pouvait-on s'y attendre après une première partie de saison record? Vous me le direz tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, on s'intéressera au prochain match des Lensois avec un déplacement à Montpellier dès samedi soir. Pour m'accompagner, je vous présente le casting de ce 21e épisode. On ne l'avait plus vu dans Culture Sang et Or depuis mi-novembre. Lens venait de s'imposer face à Clermont et il s'osait à un « c'est pas mort » en parlant de la lutte pour le titre. Sam Duhamel, journaliste pour RTL, est là avec nous. Salut Sam.
Salut Valentin, ça va être plus compliqué que prévu cette histoire.
Sa dernière apparition dans l'émission remontée au dernier succès lensois en championnat, son retour coïncide avec celui de la victoire également. C'est Hugues Honoré, journaliste à l'AFP qui est avec nous également. Salut Hugues.
Salut Valentin, salut à tous les supporters lensois.
Il s'est extasié hier après-midi sur la victoire de son club préféré, le PSG. Antoine Combe sera notre troisième chroniqueur. Salut Antoine.
Je refuse de répondre à ça, mais bonsoir à tous.
Enfin, il rebondit lui aussi. Mais sur sa chaise, à l'idée de retrouver également la victoire dans le quiz Culture Sang et Or, c'est Guillaume qui clôture les présentations. Salut Guillaume.
Salut Valentin, bonsoir à tous les supporters lensois.
Allez, réagissez dans les différents chats de l'émission. On siffle la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Sang et Or sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Et puis rendez-vous sur notre site web Culture Sang et Or pour y trouver plein d'articles sur le club. On les a crus cyborg durant des mois, on s'est rendu compte à quel point ils sont simplement humains ces derniers temps, avec des hauts et des bas, des périodes où la réussite vous fuit, où la solidité fait défaut, où le goût de la victoire s'estompe, où les têtes sont parfois à l'envers. Nombreux furent les gabales tragicomiques sur les réseaux, faisant passer en un instant cette équipe au parcours record en un groupe aux abois, jouant sa survie en Ligue 1 parce que, je cite, « elle n'a plus que 8 points d'avance sur le 6e ». Mais finalement, ne serait-ce pas finalement rassurant de voir ça? Ne serait-ce pas ça qui nous rend si accro à cette équipe? Que chacun puisse s'approprier ces joueurs, ces simples humains, c'est ceux-là même qui nous font passer par toutes ces émotions et qui font que chaque supporter du Racing Club de Lens a cette équipe dans les veines. Ne banalisons jamais la performance des hommes de Francaise, ni ses émotions, belles comme frustrantes parfois. Profitons de cette chance. En tout cas, c'est sur le terrain de Bollard que Lens a répondu hier avec une victoire sans contestation qui fait du bien à toutes les veines où coule ce sang parsemé d'or. Messieurs, premier tour de table, est-ce que pour vous, cette victoire face à Nantes, Hugues, est rassurante?
Oui, elle est très rassurante et moi j'avais l'impression, très belle introduction, c'était du boileau, c'était du montagne, on ne sait pas, mais c'était franchement bien écrit. J'avais l'impression que ce match, après cette série difficile où on a eu du mal à enchaîner tous ces matchs à l'extérieur qui revenaient très rapidement, là, ce match-là face à un adversaire qui avait joué jeudi soir, qu'on préparait dans des conditions correctes à la maison, on était obligé de le gagner si on voulait avoir des ambitions. Et effectivement, on a pris les Nantais à la gorge. Donc ouais, pour moi, c'est très rassurant.
Je pose la question également à Guillaume. Est-ce que tu es rassuré par cette victoire face à Nantes?
Une victoire qui fait du bien. Voilà, surtout une victoire avec la manière. Donc voilà, on a quand même vécu une période, en termes de comptable en tout cas, un peu délicate. Et donc... c'est bien de réenclencher. Il y a Francaise qui disait justement qu'il était persuadé qu'on allait repartir sur une dynamique. Et donc, si c'était le T0 hier, ça me va super bien. Et continuons.
On passe à Sam. Cette victoire t'a rassuré? Ce jeu t'a rassuré du Racing?
Si tu veux, pour être rassuré, il faut être inquiet dans un premier temps. Je ne l'étais pas particulièrement. Effectivement, j'avais lu comme Guillaume la déclat de Francaise là, sur l'aspect à la fois les données athlétiques et puis le côté certitude en fait, de l'entraîneur par rapport à ce qu'il voyait de ses joueurs sur le terrain et en match et lors des entraînements. Donc, voilà, je n'étais pas particulièrement rassuré. Je trouvais qu'il y a une forme de logique dans la victoire d'hier. Et effectivement, elle fait du bien, je suis d'accord avec Guillaume, parce que l'idée des cycles bas, c'est d'éviter qu'ils durent trop longtemps, parce qu'on voit que de temps en temps, en fait, ça ne se joue pas à grand-chose et qu'on peut tomber dans une forme de mini-crise à quelques minutes seulement. Donc voilà, c'est très bien que ça soit reparti de l'avant.
Allez, on termine ce tour de table, ce premier tour de table avec toi, Antoine. Est-ce que tu as été rassuré par cette victoire ?
Je rejoins un peu la position de Sam. Pour être rassuré, il faut d'abord avoir été inquiété. Et on est une équipe qui forcément va connaître un coup de moins bien dans la saison. Hein. Il n'y a que très peu d'équipes dans le top 5 européen, voire quasiment aucune, qui a de coup de mou au cours d'une saison. Donc il était attendu. Et il n'a pas duré excessivement longtemps si ça continue dès le week-end prochain à Montpellier. Donc voilà, rassuré dans le sens où le compteur de points se remet en route, surtout que devant on a une sacrée fusée avec Paris, Marseille, Monaco. Donc si on peut s'y accrocher et profiter de l'aspiration, c'est très bien.
En tout cas, je ne sais pas si c'est votre avis, mais moi, j'ai eu l'impression de retrouver ce Lens, comme aime le dire Antoine, protagoniste dans le bon sens, c'est-à-dire qui prend le jeu à son compte simplement, qui va vers l'avant rapidement, qui se pose peut-être moins de questions qu'il s'est posé ces derniers matchs autour de la vitesse, des transitions rapides, du jeu en première intention. Est-ce que c'était également le sentiment que tu as eu, Hugues, sur ce début de match et sur cette première mi-temps et globalement sur le match même ?
Ouais, moi, je trouve que cette équipe, elle ressemble de plus en plus à ce que Guardiola fait, c'est-à-dire on empêche complètement l'adversaire de trouver des solutions, on essaye d'avoir le ballon, parce que quand on n'a pas le ballon, on n'est pas inquiété, et on ne joue pas forcément avec un avant-centre. Bon, cette saison, ils ont Haaland, mais nous, on espérait avoir Buxa, on ne l'a pas. Donc, c'est une équipe qui ne peut pas être mise en grande difficulté parce qu'elle enserre vraiment bien son adversaire. Et donc, là, en ayant eu pas mal le ballon, en ayant su avoir la patience, parce que la finition n'était quand même pas au rendez-vous pendant la première demi-heure, il n'y a pas eu d'affolement. Il y a eu quand même, à mon avis, un match qui laissait assez tranquille les gens qui le regardaient. Moi, j'étais pas inquiet, je me disais que Nantes finirait par commettre une erreur, et ben, y a eu une erreur effectivement qui a permis à Machado de mettre encore ce tir du pied droit, et après ça a déroulé. Il y a un plan de jeu qui me semble assez clair, avec un système offensif qui a évolué ces derniers temps, et moi j'aime beaucoup.
Moi, j'ai eu le sentiment, et je vais donner la parole à Antoine Comte, tiens, que le Racing était bien plus présent dans les duels que les derniers matchs qu'on a pu voir, a retrouvé un petit peu plus de précision technique également. Sur les derniers matchs, on avait l'impression que finalement, ils étaient un petit peu plus attentifs dans leurs attaques, passaient peut-être plus de temps à se passer la balle qu'à vraiment aller vers l'avant. Est-ce que tu avais ce sentiment-là ? Est-ce que tu trouves que ça a changé sur le match de Nantes ?
Je suis absolument d'accord sur le fait qu'on était beaucoup moins attentiste, et le dernier match qu'on a fait à Lyon, je pense, c'est le meilleur contre-exemple où j'avais rarement vu Lens avec le ballon mais ne rien faire avec. Je pense notamment à Danso qui a multiplié les touches de balle contre Lyon et qui l'a lâché beaucoup plus vite, et je pense que c'était de toute façon un rappel s'il y en avait besoin de ce qu'on veut mettre en place. Et après, avec Terrence de lancement, Gradit, Medina qui ont joué beaucoup de façon verticale contre Nantes, et c'est ce qui m'a frappé sur les 20 premières minutes. Le bloc de Nantes a été très vite scindé en deux, entre d'un côté leur défense à 5 et après leurs 4 offensifs, et ça se baladait au milieu de terrain, que ce soit Fulgini, mais surtout Thomasson et Sotoka. Et je pense que sur ça, on a retrouvé un peu cet état d'esprit du jeu qu'on avait un peu perdu, je trouve, sur les derniers matchs, et qui a largement fait la différence. Et ouais, moi, s'il y a quelque chose que je retiens de ce match, c'est d'un côté, on a retrouvé la solidité défensive. Donc, comme tu le disais, au niveau des duels, j'ai très peu de duels perdus en tête, que ce soit autant les centraux que même les pistons. Machado, défensivement, son match est excellent. Offensivement, pareil. Frankowski, peut-être un petit peu moins bien, notamment sur le contre qu'on prend sur le but. Mais non, franchement, retrouver cette solidité et en même temps cette verticalité de par nos cinq de derrière, ça fait tout de suite la différence.
En termes de stats dans les duels notamment et dans la précision, eh bien c'est à la hauteur du match face à Lorient notamment, du match face à Brest, hein, le premier match de la saison à Bollard, et également bien la victoire à Monaco. On est vraiment dans les mêmes rives, et en termes de réussite, on voit qu'il y a un petit peu les mêmes choses finalement offensivement. 3 buts marqués, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas vu autant en championnat. Et puis cette réussite, Sam, hein, qui revient également, même si elle a mis du temps à se dévoiler, mais finalement, on a enfin réussi à marquer des buts sur nos temps forts.
Oui, c'est vrai. Alors, effectivement, quand tu as utilisé le terme réussite, l'image qui m'est venue, le flash qui m'est venu, c'est le duel Sotoka à fond vers la 20e minute. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai souri. Mais oui, c'est vrai. Bon, trois buts, marquer trois buts, c'est toujours une performance. Donc, là, c'est quelque chose de fort. Ce qui a été réalisé, c'est quelque chose de fort. Après, c'est vrai que je pense possibilité d'en marquer encore plus. De la part des joueurs de Lensois, et parce qu'il y avait. J'imagine qu'on va en parler des décisions arbitrales contestables en défaveur des Lensois. Donc, l'un dans l'autre, effectivement, il y aurait pu y avoir plus de buts. Mais c'est vrai qu'on a retrouvé en partie le Lens qui était en ballant du tout début de saison, notamment ce match contre Lorient où c'était je les avais surnommés les Artois Globetrotters, tellement ça allait dans tous les sens et que ça jouait très, très bien. Le seul bémol. Parce qu'évidemment, c'est facile de s'enflammer quand il y a une victoire et de déprimer quand il y a une défaite. Le seul bémol, et je pense que tous les observateurs l'ont en tête, et nous tous ici aussi, c'est que les Nantais, sincèrement, alors pas forcément sur la première mi-temps, mais ça s'est vraiment vu sur la deuxième. Je crois qu'ils avaient une partie de leur esprit qui était déjà connectée, je pense, à l'événement de leur saison qui aura lieu jeudi. Et en fait, pour la petite histoire, j'en discutais avec des confrères nantais avant le match. Et c'est vrai qu'il y a une énergie folle autour du match de la Juve. Et même qu'on boirait après le match, on a dit, le match le plus important de notre semaine, c'est jeudi. Ludovic Blas est resté sur le banc parce qu'il y a jeudi, etc. Donc, ça explique aussi en partie pourquoi il y a eu ce sentiment de très nette supériorité de la part de l'équipe lensoise, je pense.
Oui, mais il faut savoir quand même en profiter, malgré tout, Sam.
C'est sûr, parce que tu as raison, l'an dernier, c'était une configuration un peu semblable, le match contre Nantes, avec cette Coupe de France, cette finale de Coupe de France qui arrivait pour les Nantais. Exactement. Moi, j'étais absolument convaincu que Lens allait croquer Nantes par rapport à ça. Ce qui a d'ailleurs été le cas sur les 50 dernières minutes.
Sur le match,
c'est le cas. Ouais, c'est on prend deux buts très rapidement, en fait. Ouais.
Mais ce qu'il y a, c'est que ces deux buts…
Et tu prends un rouge, surtout.
Ouais, exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que, bon, au final, il n'y a qu'un seul point. Donc, pour le coup, là, les Lensois ont retenu la leçon. Mon impression, c'est que vraiment, cette victoire, elle souffre d'aucune contestation possible. Elle est logique. Et tout le monde l'a reconnue. Hein, tous les Nantais l'ont reconnue en conférence de presse. C'était très clair.
Ouais, on est d'accord. Et ça s'est senti sur le terrain, malgré tout, qu'ils avaient la tête ailleurs. Mais encore une fois, il faut quand même réussir parce que c'est pas gagné d'avance un match de foot, malgré tout. Tu as un peu touché du doigt hein, le sujet arbitrage. Évidemment qu'on va en parler, Sam. Et je vais commencer avec Guillaume sur le sujet. On se souvient évidemment hein, des scandales du match à Brest et on nous en parle hein, également dans le chat hein, de l'émission. On a Guillaume qui nous dit: vous ne trouvez pas que c'est un scandale l'arbitrage encore une fois sur ce match face à Nantes? Bon, il y a quand même je dirais au moins deux, il y en a qui en voient trois, je dirais il y a au moins deux situations vraiment flagrantes. Guillaume, qu'est-ce que tu penses encore de cette décision, en tout cas de cet arbitrage et de cette VAR qui ne se décide pas encore à intervenir?
Que dire? On a suffisamment dit, le club a communiqué la dernière fois. Bon, bah là, effectivement, moi du stade, honnêtement, l'action de Frankowski, je suis devant, je ne sais pas. Je suis à l'opposé parce que je suis en exercice presque côté Tranin. Open door, je dis à mon père, il y a penalty.
Bah oui, non, mais tout le monde.
Sûr qu'il intervient. Et je suis à 80 mètres. Je dis, il intervient d'abord, l'autre, il lui tape, c'est sûr, en l'air.
Ouais, bon. Bien sûr.
Monsieur Gayouste, qui avait plutôt été bon en Coupe de France à Brest, il siffle dans l'autre sens. Après, il n'est pas aidé par les amis du camion, hein, donc qui étaient en train de manger sûrement un burger. Et ensuite, Aïdara, c'est vrai que ça paraît anodin parce qu'on. Moi, dans le stade, c'est pareil, on ne voit pas trop, mais c'est vrai qu'il se prend une énorme mandale en pleine tête.
Ouais, on se souvient que Clément Michelin, je l'ai expulsé face au LOSC, notamment pour un geste similaire. Hein,
voilà,
c'est sûr que si, pour Aïdara, juste pour prendre le cas de Aïdara, tu fais cette faute au milieu de terrain, je suis sûr à 2000% qu'il siffle. Mmh. C'est sûr.
Après, il la voit peut-être pas, hein. Et je sais pas l'angle de ça, son angle, etc.
Non, mais il la voit pas, d'accord, mais il y a des gens.
Non, mais c'est pas l'arbitre, du coup. Au milieu de terrain, soit il la voit, soit il la voit pas. Au milieu de terrain, on va pas, la VAR va pas lui dire, il y a une faute, il y a un coup de... Là, en zone surface de réparation, c'est bien le rôle de la VAR. Les règles sont là pour ça, c'est qu'ils interviennent dans
quatre. Ce qui est hallucinant, Hugues, c'est que ça arrivait il y a deux matchs pour le Racing Club de Lens, qui a communiqué énormément là-dessus, sur la VAR. On entend Anthony Gauthier qui s'exprime, hein, etc., et compagnie. Et deux matchs plus tard, une nouvelle fois, la VAR fait défaut, quoi.
Et ouais, on a eu un corps arbitral qui s'est dit on va faire des réformes, on va essayer de mieux communiquer, etc. Et finalement, il n'y a rien qui change. Ben, pour moi, journée après journée, match après match, la VAR prouve son inutilité et sa nocivité pour le football. Donc arrêtons ça. On va retrouver des décisions contestables aussi, mais au moins, il n'y aura pas deux fois contestation, quoi, parce que là, on a envie de contester l'arbitre central et on a envie de contester ceux qui ont les images. On se dit, mais deux fois, vous trompez, les gars, c'est pas possible. Enfin, là, il y a vraiment une frustration énorme qui serait, à mon avis...
C'est pas une situation dans le match, c'est trois à chaque fois, quoi.
Ouais, trois. Et à mon avis, cette frustration, elle serait moindre si on se disait, bon, bah, c'est à vitesse réelle. Effectivement, la faute sur Aïdara, elle est pas évidente forcément à voir. Il se prend un bon coup, il a mal, il est par terre. L'arbitre central peut se demander pourquoi, mais l'arbitre qui est devant ses écrans, je saisis même pas pourquoi il va pas dire à son collègue, tu devrais peut-être t'intéresser à cette situation, elle est quand même bizarre, il y a un gros, gros coup de coude.
Ouais, bon.
Bah, limite, ce serait plus lisible, parce que le problème, c'est que généralement, quand la VAR appelle l'arbitre, c'est pour dire tu t'es trompé. Là, limite, c'est on te dit pas si tu t'es trompé ou pas, mais viens voir, quoi. Et limite, ouais, ce serait plus... Moi, limite, je préfère que l'arbitre, même s'il y a faute, je préfère que l'arbitre aille voir et qu'il dise il n'y a pas faute, plutôt que la VAR ne l'appelle pas, tu vois. Ouais. Parce que moi, ça lui permet de vraiment prendre conscience et de dire bon, bah, il estime qu'il n'y a pas faute, bon, bah, voilà, c'est son interprétation. Mais là, le problème, c'est qu'il ne l'a peut-être pas vu, mais là, pour moi, ce n'est pas un argument entendable parce que c'est comme un joueur de foot, un arbitre doit être bien placé. Ils sont entraînés pour savoir se placer en fonction de où est le ballon, des situations, etc. Et donc, pour moi, ce n'est pas un argument entendable, mais si jamais, voilà, après le.
Ah, mais il ballon peut être bien placé, il y en a un qui se met devant lui au dernier moment.
Non, enfin, oui, voilà, c'est pour ça que. Quand même, mais comment il l'appelle pour que ça ait plus de lisibilité sur les choses, au moins, et on en revient toujours à la même chose, la sonorisation, qu'on entende au moins l'échange entre le camion et l'arbitre pour dire bon, bah non, c'est pas une faute flagrante, etc. Mais là, pour moi, il y a trois pénalties, une fois d'accord, après, il faut arrêter. Quoi.
La sonorisation,
l'échange, on l'a entendu, hein, ils l'ont sonorisé, hein. Ils ont oublié mes frites dans le.
Ça suffit, Guillaume. Non, mais la sonorisation, en tout cas, c'est prévu. En tout cas, c'est prévu. Ça en parle beaucoup, hein, en ce moment, pour pourquoi pas la saison prochaine. Pour terminer sur l'arbitrage, Sam, il me semble que tu étais en conférence de presse, hein, après le match avec Franquès, qui était encore agacé, hein, par ces situations.
Ouais, si tu veux, en fait, il a commencé sa conférence de presse là-dessus. C'est-à-dire qu'il est. Bon, normalement, après une victoire, surtout méritée et tranquille. Il est serein, Franquès. D'ailleurs, il est très souvent serein, même dans la défaite. Je me souviens que, enfin, c'est une petite digression, que lorsque Lens avait perdu 4-0 à Lille il y a deux ans, il est arrivé en conférence de presse avec le sourire. Mais enfin bref, je referme la parenthèse. Donc, il est arrivé agacé. Il est arrivé agacé en disant là, je viens de revoir les images et sincèrement, il y a trois situations. Donc, effectivement, Frankowski, Openda et Aïdara, où il y a potentiellement penalty. Et c'est vrai que, pour reprendre ce que disait Guillaume, moi je me souviens que sur alors évidemment je suis beaucoup plus loin, je suis en tribune, mais sur les actions, les trois actions d'ailleurs, moi je me rends pas compte qu'il y a faute. Mais par contre, en fait, dès qu'on a les ralentis, mais ça me paraît flagrant. Et je regarde mes collègues et je me dis, mais là vous, enfin, je me souviens, c'était la réplique de Jean-Claude Duss, c'est mes yeux ou quoi? Et finalement, a priori, c'était mes yeux. Mais ouais, pour moi, c'est. Mais si vous voulez, en fait, pour vous dire la vérité, pendant longtemps, j'ai été ni pro-VAR ni anti-VAR. Je me disais que ça pouvait être une aide, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème systémique avec ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de corporatisme chez les arbitres. On se souvient de cette histoire de notation. Si on fait appel à la VAR, on peut éventuellement perdre des points. Bon, ça va être remis en cause, etc. Mais je ne sais pas, j'ai comme l'impression que appeler son collègue, donc en l'occurrence M. Gayoust, c'est faire preuve de lèse-majesté et que ça peut être mal perçu de la part de l'arbitre du VAR. Bon, voilà, moi je vais dans le sens d'Antoine. Pour moi, il y a trois pénalties évidents. voilà, évident. C'est-à-dire que je siffle tous les jours si j'étais arbitre. Mmh. Alors après, j'étais intéressé de voir les réactions des uns et des autres sur les réseaux sociaux. Alors certains disent 1, certains disent 2. Alors ceux qui disent 1, c'est pas forcément pour le même. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a une part d'interprétation qui est très forte. Mais c'est ce que je disais, c'est que qu'il n'y ait pas de coup de sifflet après ces trois situations-là, ou plutôt un, mais en défaveur de Lens.
Oui, ça c'est le plus
d'Openda. C'est peut-être ça. Sincèrement, ouais. Bon, après, peut-être que j'y connais rien en foot, et c'est possible. Et c'est possible. Mais disons que je ne comprends pas. Voilà. Il faudrait vraiment qu'on m'explique, parce que je ne comprends pas. Et si tu veux, juste, je referme la parenthèse. Ouais. Moi, ce que je crains, c'est que par corporatisme, il peut y avoir des arbitres qui, pour protéger leurs collègues, vont toujours s'appuyer sur oui, mais là, à un moment donné, c'est l'interprétation et donc il se passe ici.
L'interprétation parce qu'en fait, dans ce cas-là,
voilà, tu peux tout reprendre. Si tu veux, la faute, je crois, de Verratti sur Thiago Diallo sur le PSG Lille, tu peux très bien ne pas la siffler. Enfin, en fait, c'est extrêmement rare où tu dis bah, là, c'est sûr et certain qu'il y a faute dans la surface. Tu peux toujours trouver un truc. Donc, ouais, là, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de s'arrêter, de se poser autour d'une table et réfléchir sur comment on peut faire.
On espère que ce sera
fait pour améliorer le système.
Parce que Monsieur Gauthier,
c'est ce que le club essaye de faire. C'est ce que le club a essayé de faire après Brest, hein, en essayant de changer un peu la façon d'approcher le débat, en tournant un peu en ridicule. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il fasse une deuxième vidéo pour montrer que, regardez les gars, c'est tous les week-ends. Bon, ouais, c'est encore contre nous.
Même
et
cette fois-ci,
même quand on gagne, parce que là, ça tourne en notre faveur. Si tu gagnes pas le match, tu brûles le camion.
Ouais, ça.
Je rappelle simplement, de mon point de vue, il y avait une faute de Fulgini en Coupe de France à Lorient qui n'a pas été sifflée. Il y avait un pénalty pour Lorient, évidemment. Oui, donc, parfois, c'est dans les deux sens.
Oui, bien sûr, on est d'accord. Et on l'avait globalement bien cerné.
On peut avoir l'impression que c'est contre nous, mais c'est aussi parce qu'on est tout le temps dans la surface à 6 ou 7 joueurs. Nantes, ils peuvent avoir un pénalty hier, ils ne sont jamais dans la surface. Comment tu veux qu'ils aient un pénalty?
Oui, non, mais d'accord. Mais quand tu as trois situations, que les trois te paraissent relativement flagrantes et que tu n'en as pas un seul qui est sifflé à.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément. Enfin, faut pas le vivre contre nous, quoi. C'est pas une cabale contre Lens ou voilà.
C'est juste une incompétence, c'est ça ?
Oui, je suis d'abord, ou alors peut-être un corporatisme, comme le disait Sam, on ne sait pas. Bon, en tout cas, on espère que cette situation va évoluer au fur et à mesure. Monsieur Gauthier qui communique beaucoup, on espère.
En fait, juste hyper rapidement. En fait, moi, ce dont j'ai besoin comme observateur du foot, c'est qu'à un moment donné, il y a un arbitre qui dise je me suis trompé. Et ça, en fait, ce qui m'ennuie, c'est que je n'entends jamais. Je l'entends jamais. Alors évidemment, là, par rapport à Brest, il y a Anthony Gauthier qui a dit qu'il y avait deux grosses erreurs de l'arbitre, sachant que Saïd Njimi disait que lui, ce n'était pas deux erreurs, mais trois erreurs. Mmh. En fait, on a simplement besoin, ce sont des êtres humains, il n'y a pas de souci. Mais de temps en temps, dire, voilà, autant pour moi, on s'est trompé, on est allé trop vite, etc. Le fait qu'on ait l'impression d'avoir des Robocop qui ne se justifient pas, alors que enfin, entre guillemets, on parle plus de même football, du coup, et c'est d'autant plus grave. Nous, on est observateurs, on s'en fout quelque part. Mmh. Mais c'est simplement que de temps en temps, nous, on rencontre des entraîneurs qui disent je comprends pas la règle, je comprends pas pourquoi c'est sifflé contre moi ou pour moi. Donc, en fait, il y a un immense flou. Et effectivement, à un moment donné, ce serait bien de se poser et d'essayer de réfléchir ensemble.
Ouais, on est d'accord.
Je suis pas sûr que le fait d'avoir des arbitres qui s'excusent change quelque chose, parce que ça me fait penser à Arsenal Brentford où Arsenal se fait voler deux points parce que la VAR ne voit pas hors jeu. Et dans la foulée, le lendemain, tu as les arbitres qui s'excusent et qui reconnaissent l'erreur. Et Arteta, il dit, mais j'en ai rien à foutre. On a perdu deux points, on ne les récupérera pas, ces deux points.
Ouais, on est d'accord.
Mais bon. Limite, est-ce que ça ne frustre pas encore plus? Pour moi, la solution, ce n'est pas d'avoir des arbitres qui s'excusent. Ouais. C'est juste qu'on leur donne des outils, bah, qu'on s'en serve. Quoi. Voilà.
Non, mais et vraiment, on conclut là-dessus, si c'est OK pour vous. Non, simplement, par exemple, pas que l'arbitre le fasse, mais que leur représentant le fasse. Anthony Gauthier, il l'a fait après
Brest-Lens.
Ouais. Bon, évidemment, c'est deux points perdus, je ne dis pas le contraire. Mais. Au moins, on est raccord et on parle le même langage.
Et si ça permet d'évoluer les choses, surtout derrière, c'est surtout ça, en fait.
C'est surtout ça.
Pour clôturer le débat, hein, on a que du 59 dans le chat qui nous dit et dire que M. Gayoust a été noté 7 sur 10 dans l'équipe aujourd'hui.
Ouais, mais j'ai envie de te dire que moi, Gayoust, Gayoust, en fait, moi, j'ai bien aimé le fait qu'il siffle peu, justement, le reste du temps. Le jeu était ouvert, agréable de suivre, c'est en partie grâce à lui. Mais pour moi, là, c'est plus le mec du VAR, effectivement. Je sais pas s'il mangeait un burger ou des frites, mais le souci vient plus de là, en fait. Hein.
Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a aussi la façon dont est utilisée la VAR. Mais ça, ça mériterait pratiquement une demi-émission de parler de l'arbitrage. Quand même, pour terminer hein, sur le débrief du match hein, d'hier, malgré tout, hein, puisque le Racing a fait un match plaisant. Je voulais un petit peu avoir votre avis avant de passer aux notes sur la position de Sotoka en numéro 9. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée Hugues, je te vois un petit peu bouger de la tête. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est finalement vraiment sa place à Florian Sotoka en pointe?
Pour moi, il est là par défaut. C'est-à-dire que si on veut quelqu'un qui, face à des blocs bas, met de l'impact physique, c'est lui. Mais malheureusement, moi, je le préfère un peu plus bas. Je préfère quand il participe notamment aux tâches défensives. Et on l'a vu à certains moments, même si c'est lui qui termine le plus haut sur le terrain à la fin, on l'a vu être très tenté de participer à ce qui se passe au milieu, alors qu'il y a quand même un gros embouteillage finalement quand tu regardes ce que fait Thomasson qui s'est plutôt placé à droite, quand tu regardes que Fulgini et Fofana se retrouvent à peu près sur les mêmes positions, quand Pereira da Costa c'est pareil, il est milieu offensif, on a une pléthore de milieux offensifs, on n'a pas besoin que Sotoka joue au milieu offensif. Bon, c'est vraiment, on en revient sans arrêt au même problème, mais il y a un souci au poste d'avant-centre quand on joue à domicile.
On est d'accord et on fustige hein, souvent, en tout cas les réseaux fustigent souvent le manque de réalisme hein, de Florian Sotoka devant le but, ça s'est encore vu hein, hier après-midi. Malgré tout, bon, bah, c'est vrai que Loïs Openda n'est pas non plus dans une méga forme ces derniers temps, Guillaume, sur ce sujet-là. Tu aurais quand même plus vu hein, Loïs Openda démarrer ou tu trouves que c'est pas idiot de mettre Florian Sotoka devant?
Non, moi je trouve que c'est pas idiot. Hein. Après, Loïs Openda, s'il n'a pas démarré, je pense que c'est surtout par rapport à son entrée à Lyon. Donc après, le coach, il manage ses hommes et là-dessus, je lui laisse. Enfin, je veux pas donner mon. Enfin, j'ai pas d'avis à donner là-dessus parce que ça a dû se passer en interne. Peut-être que normalement, Openda aurait peut-être dû jouer parce qu'il n'était pas titulaire à Lyon, mais l'entrée qu'il a faite lui a pas donné envie à Francaise de le mettre titulaire. Après, Sotoka, moi, j'y ai pensé il y a quelques matchs quand on a commencé à être dans le dur, notamment le match à 3. J'aurais bien aimé le voir dans la surface. Alors, je pense que Sotoka, sur certains matchs, notamment par rapport à son jeu de tête, sur des blocs bas, quand on pousse, en fin de match, il peut être plus intéressant. Là, c'est vrai que contre Nantes, c'est pas tout à fait ce schéma de match. On peut pas dire que Nantes était bloc bas, en fait. On les a pas acculés, on n'était pas dans une logique de possession autour de la surface.
Ça n'a pas empêché d'avoir deux énormes occasions, quand même, en première mi-temps.
Oui, il y avait quand même c'est vrai que c'était peut-être un match qui aurait plus été pour Openda parce qu'il y avait des espaces. Mais après, je pense qu'Openda, il n'a pas joué pour les raisons que j'ai évoquées. Et donc, dans ce cas-là, Sotoka, il donne le change quand même. Je trouve que c'est pas un mot. C'est un choix un peu par défaut, effectivement. Mais on ne peut pas dire non plus que ce soit un choix catastrophique. Après, effectivement, Sotoka, s'il était efficace et tueur, ce serait un top, top, top player. Quoi. C'est un top player pour Lens, mais ce n'est pas un top player européen. Voilà. Donc non, moi je suis content de son match malgré tout, parce qu'il est quand même mobile, il bouge, il emmerde les défenses. Quand vous avez, je sais pas si vous avez entendu Giroto qui a dit en début de match, on ne savait pas les marquer, on ne savait pas, Sotoka, il contribue aussi à cette capacité à dézoner, à emmerder le monde. Et les défenseurs, ils ne savent pas comment faire. Quoi. Donc, moi, je trouve qu'il a fait un match, il fait des fois du travail un peu de l'ombre. Et c'est vrai que l'avancement, tu attends à ce qu'il score. Sotoka, il n'a pas scoré, mais je pense qu'il a quand même contribué largement à ouvrir les brèches. Et moi, j'aime son match.
Dans le chat, on a Thomas Corré qui nous dit « Très demandeur, de bonne remise, amène du danger, reste sur ses pieds, désolé Openda, mais il lui manque quand même encore cette efficacité de tueur devant le but. » Et on a RCL Stat qui nous dit « C'est à ce jour la meilleure option de Francaise en attendant Saïd et Buxa. » Bon, à moins que quand même Loïs Openda revienne à un niveau qu'on l'a connu hein, en première partie de saison. On va passer aux notes, messieurs, dans ce débrief. Hein, je voulais quand même de vous donner d'abord la stat, hein, puisque c'était le centième match de Francaise en Ligue 1 hein, ce week-end. 97%, soit le pourcentage de matchs que Francaise a terminé dans le top 10 de Ligue 1 depuis qu'il a le Racing Club de Lens en tant que coach. Donc, c'est juste une stat hallucinante quand même hein, pour ce coach arrivé un peu de nulle part à la tête du Racing hein, finalement. Je voulais en parler. On va noter des joueurs, messieurs, et ça va vous permettre de débriefer un peu leur match rapidement malgré tout. Je vais donner Sam Seko Fofana. Hein. C'est vrai qu'on a qui était un peu décrié ces derniers temps, quand on faisait peut-être un petit peu trop, qui manquait de tenir sur ses pieds, les contrôles, les compagnies. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? On l'a trouvé peut-être plus fluide et plus simple face à Nantes.
Ouais, bah c'est le terme simple qui me paraît le plus évident. Effectivement, ce qu'on a vu ces derniers temps, c'est que quand c'était compliqué pour Lens, il avait tendance à vouloir tout faire tout seul et à jouer les sauveurs quelque part. Et ça peut se comprendre parce qu'il a déjà fait plusieurs fois la saison dernière. Mais voilà, je l'ai trouvé mieux en jambes. C'est-à-dire que physiquement, je l'ai trouvé plus à l'aise. Et on sait que, évidemment, comme tous les joueurs, mais certainement lui encore plus, ses performances dépendent en grande partie de ses capacités physiques. Alors, sans forcément faire un grand match, voilà, je l'ai senti, comment dire, en adéquation avec ce que l'équipe a produit. Et il a fait un. Comment dire, elle a livré une performance solide, quoi. Moi, j'ai pas vu les notes des confrères, mais j'aurais tendance à lui mettre 6 sur 10.
Ça marche, 6 pour Seco de la part de Sam. On va donner à Antoine Combes le serial buteur, hein, si je peux, je peux me permettre de l'appeler Diver Machado. Que tu as pensé encore de son match et de son but?
8. 8 parce que match excellent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit défensivement, où il prend de plus en plus d'ampleur alors qu'on l'attend surtout sur le plan offensif. Et moi, c'est d'abord ça que j'ai envie de mettre en avant, c'est son match très sérieux défensivement, où à gauche, son association avec Medina marche très très bien. Alors, je ne sais pas si c'est la connexion sud-américaine, mais en tout cas, les deux me régalent. Et offensivement, il a une qualité de centre en première mi-temps. Tous ses centres ont été dangereux, quoi. Et en fait, il a tout. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup, c'est qu'il regarde. Il y en a, ils vont centrer pour dire de centrer. Et lui, il regarde et il sait où il faut la mettre. À un moment, bah, sur le tacle où Frankowski se fait arracher, la solution la plus simple, ce serait de la mettre à Sotoka. Sauf que Sotoka est hors-jeu et il le sait. Et par contre, il voit tout de suite Frankowski seul deuxième poteau et il lui met très bien. Et donc, rien que pour ça, et c'est ce qu'on attend de nos pistons, hein, qu'ils aient beaucoup d'opportunités de centrer et qu'ils sachent le faire. Et si en plus il se met à marquer des buts du pied droit magnifiques tous les week-ends, c'est que demander de plus? Donc, non,
Son
franchement, match
mauvais pied,
hyper.
entre guillemets. Ouais.
Mais oui, c'est ça. En plus, pour un gaucher, des buts du droit comme ça, on n'en voit pas souvent. Donc, pour moi, match ultra complet, comme son compère de la défense centrale. Donc, un gros 8, et franchement, peut-être l'un de ses meilleurs matchs, même certainement l'un de ses meilleurs matchs depuis qu'il est arrivé. Et très content, parce qu'il a eu une saison compliquée l'année dernière, avec des blessures, plus la concurrence avec Frankowski, qui joue à gauche, et Aïdara. Donc, je suis vraiment content qu'ils aient fait confiance pour cette saison à Machado. Et
Et 8.
il fait que progresser depuis ce qu'on voyait déjà à Toulouse. Et donc, un gros 8.
Adrien Thomasson, ce sera pour Hugo Nouri qui commence petit à petit à imposer sa patte, hein, Adrien Thomasson.
Ouais, c'est un joueur difficile à appréhender, et je pense difficile à appréhender pour ses adversaires. Il est capable d'un peu tout. Il a un style qui varie, je trouve, en fonction des matchs. Il sait tellement bien s'adapter à son adversaire que on ne sait jamais quoi attendre de lui. Et il est efficace devant le but depuis qu'il est arrivé. Donc ça, c'est parfait. Moi, sur ce match-là, je lui mettrais 7. Il a été sûr dans ses prises de balles. Il a fait beaucoup de bons choix. Il est très mobile sur ce côté droit où Fulgini et Fofana vont peu. Donc, il a tenu cet endroit du terrain très efficacement. Et je pense que les Nantais n'ont pas encore compris ce qu'ils avaient en face comme joueur. Donc, ouais, c'est un apport offensif et aussi beaucoup de dépenses d'énergie défensive qui ne peuvent que faire plaisir à Francaise.
Thomasson, ancien Nantais, hein, d'ailleurs on l'oublie un petit peu, hein, mais qui a joué au FC Nantes. On va terminer avec Guillaume. Alors il en a parlé un peu, Antoine Combes, mais je te donne Facundo Medina, hein, qui a été également excellent sur ce match-là, qui impose de plus en plus sa patte vers l'avant.
Ah ben là, il est un peu dans la plénitude, Facundo, en ce moment. Hein. Tout ce qu'il fait, c'est super. Hein. Je lui mets aussi 8. Hein. Je lui mets aussi 8 parce qu'il fait une super passe décisive sur le but de Machado, parce qu'il lui met une belle tête, hein, pour qu'il frappe. C'est vraiment lui qui est à la base de beaucoup de nos actions. Après, défensivement, il n'a pas eu non plus un travail exceptionnel à faire, mais il fait une défense voilà, un peu vicieuse, un peu maligne, toujours bien placée.
Mais les coups qu'il faut.
Oui, sans mettre des coups, mais des petits stops, des petites façons de ralentir l'attaquant en étant à la limite. Et puis cette grinta, cette envie d'avancer avec le ballon, de jouer avec la semelle et d'envoyer des transversales. Et puis voilà, c'est.
Il est dans la surface en fin de match, hein, sur la tête qui est hallucinant,
Et sur le troisième but aussi, hein.
Le contre aussi, ouais.
Le troisième but enfin, quand Openda et le contre-camp, il fait un sprint de malade. Il est quasiment le premier dans la surface, hein. Donc voilà,
Un bon 8.
c'est 8.
Allez, pour terminer sur le débrief, on n'est pas très en avance. Est-ce que l'un d'entre vous a un carton rouge ou un carton vert sur ce match-là qu'il se désigne, Antoine Combe?
Carton vert, parce que je pense que c'est important d'en parler, surtout avec ce qu'on a connu par le passé. Pour Silvano, le speaker, qui fait un superbe taf, que ce soit avant le match, pendant le match et même après le match. Donc moi, je voulais lui rendre un petit hommage ce soir, parce que c'est une excellente chose de l'avoir parmi nous et contribue pleinement à l'ambiance de Bollard. Donc voilà, petite pensée pour notre speaker.
Ouais. Quelqu'un d'autre? Ouais, Guillaume, vas-y.
Ouais, ben, carton vert, alors c'est pas un hommage, mais c'est par rapport à la petite Ganago, du coup.
Ouais, je vais en parler. Ouais.
C'est des moments qu'on a déjà connus avec Fortuné, avec Arnaudine Dan aussi, hein, qui ont perdu des enfants chez nous. Donc voilà, c'est le hasard du calendrier a fait que il est à Nantes, il vient et joue à Lens. Voilà, il y a une communion par rapport à ça. Et puis l'hommage, je pense que on a fait ce qu'on pouvait, parce que de toute façon, on ne lui ramènera pas sa fille, hein, mais. C'est souligner aussi c'est les pensées qu'on a vers lui. Quoi, parce
que c'était important de le faire et ça a été bien fait de la part des deux équipes et de tous les supporters présents au Stade Bollard. Et c'était important d'en parler malgré tout et de le souligner. Avant de jouer, messieurs, un petit peu d'actu rapidement. Il y avait quand même un match de la N3 ce week-end, hein, un match en retard de la 12e journée du championnat. La réserve du Racing qui fait coup double avec une victoire 3-1 sur le terrain de Fénionnois. Camara, Dosso et Sichouba sont les buteurs et par la même occasion, mais dans le soir, s'emparent de la place de leader de leurs adversaires du jour à la différence de but. Hein, la N3 du Racing est leader du championnat et c'est important de le signaler. Hein, la saison dernière a été calamiteuse hein, avec cette descente en N3 et c'est beau de réussir à réagir de la sorte de la part du club. Réception de Longo pour le prochain match. Longo, lanterne rouge, hein, samedi, l'occasion d'accroître un petit peu plus. Cette place de leader pour le Racing Club de Lens. Et puis, on voulait en parler également dans l'actu. Le Racing Club de Lens a réalisé son 19e guichet fermé consécutif au Stade Bollard. C'est incroyable, c'est un chiffre. On a l'impression que c'est devenu quasiment banal, mais comme je le disais en intro, ne pas banaliser tout ça, hein, surtout au Racing Club de Lens. Alors, je ne sais pas si ces 19 guichets fermés comptent ou pas dans les matchs amicaux, je ne suis pas sûr, puisqu'il y avait la réception de l'Inter et de West Ham, je ne suis pas sûr, hein, mais si ce n'est pas le cas, ça remonte au mois de février dernier, hein, quand même. C'est assez hallucinant et il fallait le signaler. Est-ce que l'un d'entre vous veut juste réagir avant de passer au quiz?
Il faut agrandir ce stade.
On a déjà connu des saisons full guichet fermé hein, dans les au cœur des années 99-2000. C'est full guichet fermé quasiment hein, au Paris. C'est cool de revenir dans cette époque un peu dorée que certains ici ont connue, hein, dont moi notamment. Donc c'est cool.
Non, surtout ce qui est bien, moi ça me fait toujours plaisir parce que ça me refait penser à quand j'étais jeune. Je prends toujours
le week-end dernier, c'est ça?
Hier, oui.
je prends toujours plaisir à voir les petits enfants avec leur petit maillot de Lens qui viennent avec leur père, leur mère, tout ça. Et c'est toujours plaisant de voir des jeunes choisir le club local plutôt que les plus grosses écuries du championnat. Donc je pense que c'est pas non plus anodin. C'est des choses qu'on voyait beaucoup moins ces dernières années. Donc c'est une très bonne chose aussi.
C'est pas les jeunes qui choisissent le club, c'est leur papa qui joue son rôle.
La ferveur ne s'achète
oui,
pas.
Oui, c'est sûr, c'est sûr.
Tout à fait. Allez, on va passer au quiz. C'est la mi-temps avec un peu de retard, messieurs. Le quiz Culture Senior va voir s'affronter deux équipes ce soir. Le tirage au sort a eu lieu et ce sera Samuel et Guillaume face à Hugues et Antoine Combe. Un quiz de rapidité, un quiz spécial rebond. J'en ai fait un déjà il y a quelques temps de ça. La réponse à la question devient le thème de la question suivante. 5 questions. La première équipe à 3 points remporte le quiz. On donne son nom avant de répondre pour que je vous donne la main. C'est parti, première question. Avant le match d'hier, quel était le dernier Lensois à avoir marqué un but face à Nantes?
Guillaume. Pas Bollard, hein, enfin.
Tout.
C'est Dacosta.
Non, c'est faux.
Antoine. Kalimuendo.
C'est bon, Arnaud Kalimuendo, tout à fait. Ah, voilà. C'était le deuxième buteur du match la saison dernière au Stade Bollard sur penalty. Arnaud Kalimuendo était le dernier buteur au mois d'avril dernier. Contre quel club Kalimuendo inscrit-il son premier but avec Lens?
Guillaume.
Dijon, c'est bon. Ouais.
Et sacré but. Sacré but. Sacré but, ouais.
Raccro.
C'est vrai.
Ou le gardien dijonnais. Troisième question. La réponse était Dijon. Qui était le coach de Dijon lors du fameux barrage d'accession en Ligue 1 saison 2018-2019?
Hugues.
Hugues.
Dalloglio.
C'est faux.
Sam Combouré.
Ouais, Combouré. Exactement, bonne réponse de
j'avais
Sam.
J'avais carrément oublié qu'il avait entraîné Dijon, lui.
Antoine Comboiré, ça fait 2 points pour l'équipe Sam. Guillaume, 1 point pour Hugues. Antoine Combe, combien de matchs Antoine Comboiré a-t-il coaché Lens à Bollaert en Ligue 1?
Guillaume.
Antoine.
0-0-0.
Exactement. Bah, on est à Amiens, punaise.
Exactement, victoire de la team Sam et Guillaume.
Ouais, ah,
c'était la fameuse saison au stade de la Licorne. Donc Antoine Comboiré n'a jamais coaché le Racing Club de Lens à Bollaert en Ligue 1. Et puis la dernière question était, mais c'est déjà gagné, à quand remonte le dernier 0-0 du Racing?
Ah bah, c'était contre Nice.
Non,
c'était contre Nice, ouais, exactement. Ouais. C'était le match à Nice.
Ah, allez, à l'extérieur, ouais.
Ouais, j'ai pas dit l'extérieur, j'ai dit le dernier 0-0 du Racing. Ouais,
ouais. 9 décembre 2022.
C'était en décembre, exactement. Victoire de Sam et Guillaume dans ce quiz. Allez, on va passer à la deuxième mi-temps et on va lancer le débat de cette émission. Depuis la reprise, hein, post-Coupe du Monde, depuis le fameux « c'est pas mort » de Sam Duhamel, juste après Clermont, le Racing a pris 13 points sur 27 possibles. Après une première partie de championnat record, hein, on l'a dit plusieurs fois, eh bien, la période est plus délicate, comptablement en tout cas, sans être alarmante non plus, hein, pour autant. Efficacité parfois défaillante, déchets techniques par moment, on l'a vu, joueur un petit peu moins fringant, la tête ailleurs, peut-être, on ne sait pas. Souvenez-vous, après, donc clairement, hein, on était tout feu, tout flamme, on se disait, ce Racing, comment va-t-on pouvoir l'arrêter? Vous attendiez-vous à ce bilan finalement mitigé après cette reprise post-Coupe du Monde fin décembre? Est-ce juste finalement une certaine logique après un départ assez incroyable? Je vais lancer Hugues sur ce débat. Est-ce que tu as été surpris de ce bilan du Racing après la Coupe du Monde?
Un peu quand même. J'avais envie d'être très optimiste et de me dire qu'on allait continuer comme ça et qu'on était plutôt épargné par les problèmes. J'ai été trop optimiste. Donc, si j'ai été surpris au moment où ça s'est produit, où je ne m'attendais pas, par exemple, à ce qu'on perde à Lyon, quand on regarde la façon dont ça s'est passé, bah, c'est logique parce que vraiment, moi, je pense que jouer autant à l'extérieur, aussi, de manière aussi rapprochée, ne pas dormir chez soi, avoir un rythme qui est bouleversé, devoir rester à Lorient pour préparer un match, non, tout ça, c'est vraiment pas très favorable. Et à mon avis, si on a encaissé autant de buts, c'est parce qu'on avait peut-être un peu moins de jus pour récupérer le ballon au moment où, enfin, pour faire l'effort qui empêchait un contre, etc. Donc, moi, j'ai l'impression que c'était logique, mais même si je l'avais pas attendu.
Ouais. On a vu un petit peu moins de lucidité devant, un petit peu moins de lucidité derrière aussi, hein, depuis la reprise du championnat. Mis à part le match du Paris Saint-Germain, qui est un petit peu un ovni, hein, finalement, dans ce parcours-là. Guillaume, est-ce que toi, tu as été surpris de revoir le Racing un petit peu ronronner, entre guillemets, depuis la reprise post-Coupe du Monde? Est-ce que tu t'y attendais? Est-ce qu'il y a une certaine logique, finalement, à ce qu'il y ait une petite baisse de régime?
Disons que... on craignait tous un peu avec cette coupure, vu qu'on était tellement lancés comme des avions là, en novembre, que comment on allait réagir. Et on redémarre quand même plutôt bien, puisqu'on fait nul à Nice, on bat Paris, on va faire nul à Strasbourg, bon voilà, qui venait de changer d'entraîneur. Donc voilà, on se dit, bah, c'est bon, on a quand même renclenché. Et puis à ce moment-là, je pense qu'il n'y avait pas vraiment d'éléments qui pouvaient nous amener à penser qu'on allait perdre le rythme, même si c'est vrai que ce rythme était exceptionnel. Et c'est bien le problème, c'est que ce rythme exceptionnel... les hommes de Francaise, ils ont rendu l'exceptionnel presque normal en fait, et du coup ça devient normal. Donc oui, à domicile on gagne tout le temps, et à l'extérieur on gagne une fois sur deux, sinon on fait nul. Et bah voilà, c'est normal, on fait comme ça. Mais on a commencé quand même à avoir quelques petites blessures, et ça on les a pas venus arriver tout de suite. Alors effectivement, on a tout de suite réagi, il y a Thomasson qui est arrivé, il y a Fugini qui est arrivé. Néanmoins, on a un groupe qui intègre les joueurs, hein, y a pas de problème, mais on voit bien que, moi je trouve que Thomasson, c'est enfin le premier vrai bon match qu'il fait, c'est celui de dimanche. Cugini, il est encore dans son apprentissage, donc ça ne se fait pas comme ça. Et donc, quelque part, on a une petite baisse de qualité et il faut l'accepter. Sauf que nos matchs, on ne les gagne pas et c'est 2-3% de moins, ça suffit pour te faire perdre un match. Hein. 2-3% de plus, 2-3% de moins dans ta performance, c'est des sports où il y a peu de points, ça bascule vite d'un côté ou de l'autre. Et c'est pas pour ça qu'on était beaucoup moins fort. Hein. Et moi, je ne trouve pas qu'on a été beaucoup plus fort contre Nantes que à Troyes ou à Brest. Hein. C'est juste qu'il y a 1 ou 2% et qui fait que ça bascule. Et on se dit, bah, on a gagné, on était fort, on a perdu, on n'était pas fort. Mais non, justement, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il n'y avait pas d'éléments avant ces blessures. Et effectivement, les blessures sont arrivées à avant la période assez rapprochée qui a été évoquée, les déplacements, etc. Et du coup, bah, là, effectivement, on a eu 2 semaines un peu compliquées. Néanmoins, on a quand même réussi dans ça à se qualifier 3 fois, enfin à passer 3 tours de coupe. Hein, donc, ouais. Ça, il faut quand même le souligner. Dans cette période, entre guillemets, plus difficile. Donc, bon, on va voir, on ne va pas crier victoire. La période n'est peut-être pas terminée. Notamment, c'est plutôt extérieur, en fait, qu'on peut se questionner un peu. Nos résultats sont un peu moins bons à l'extérieur. C'est ouais, ça qu'il faut voir. Montpellier, notamment.
Malgré tout, comme tu le disais, on s'est qualifié à l'extérieur hein, en Coupe de France 3 fois, c'est à noter aussi. Le Racing se déplacera à Montpellier samedi, on en parle dans un instant, mais d'abord on continue ce débat. Sam, toi qui étais aussi, comme tout le monde, dithyrambique après le match de Clermont, est-ce que tu t'attendais à ce moment un petit peu plus délicat, on le disait, dans la saison, ça arrive forcément, ça arrivait les deux saisons dernières au Racing, à peu près à la même période d'ailleurs, dans la saison. Est-ce que tu craignais ce retour de Coupe du Monde? Est-ce que quand tu as vu le match face à Paris, tu te dis bah, finalement non, on ne va pas l'avoir ce trou. Et puis il arrive juste derrière face à des clubs un petit peu plus modestes. Est-ce que tu t'y attendais toi?
C'est un peu comme Hugues, c'est-à-dire que je ne m'y attendais pas, mais en même temps, il y a une forme de logique là-dedans. Ça, alors j'ai bien aimé ce qu'ont dit les collègues à la fois sur enchaîner les déplacements. Ça, c'est une première difficulté. Sur les blessures, c'est une deuxième difficulté. Et effectivement, il y a beaucoup de joueurs offensifs, notamment, qui sont absents. Et je pense que ça peut avoir une répercussion sur, notamment sur l'efficacité offensive. Donc, le fait de jouer régulièrement également tous les 3 jours, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu des tours de coupe qui ont été passés. Donc, ça veut dire que là, je ne sais plus, il y a eu 4-5 matchs enchaînés sur tous les 3 jours. Et on se rend compte que, alors, je ne sais pas si c'est directement lié, j'ai tendance à penser que c'est multifactoriel, mais qu'effectivement là il y a une semaine de préparation pour Nantes et entre guillemets comme par hasard c'est la prestation la plus aboutie depuis quelques semaines. Je pense aussi qu'il y a un élément à avoir en tête et qui peut fausser un peu la perception des observateurs et des supporters de Lens, c'est que alors évidemment il y a trois semaines Lens était deuxième, Lens est quatrième aujourd'hui. Et en fait, je pense qu'il y a cette comparaison qui intervient avec les parcours de Marseille et Monaco aussi, et des autres derrière qui marchent plutôt pas mal. Et donc, ça surligne encore un peu plus les mauvaises performances récentes du RC Lens. On dit, mais les autres gagnent et nous, on ne gagne pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Mais en fait, c'est normal, c'est juste, ça s'appelle la vie, ça s'appelle les cycles. Donc, exactement. En fait, c'est très important, comme je dis souvent, de les accepter et de faire en sorte qu'il dure le moins longtemps possible. Et globalement, j'ai l'impression que ça a été le cas. Moi, j'ai été très marqué. Je parlais de la sérénité de Francaise. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le papier de présentation de Sandrine Arestier de La Voix du Nord sur l'avant Lens Nantes. Elle conclut son papier sur une déclat de Francaise qui dit en ce moment, ça va revenir. J'ai pas d'inquiétude, ça va revenir. La question, c'est de savoir quand. Parce qu'encore une fois, ils ont des indicateurs que nous, on n'a pas en termes de data et autres. Donc, voilà, il y a eu un coup de mou, sincèrement. Alors, on verra bien. C'est ça qui est passionnant dans ce championnat. C'est que si ce coup de mou, il a duré 4 matchs, bah, ça va être intéressant pour la suite, ça c'est sûr. Donc voilà, wait and see.
Ouais, on est d'accord. Malgré tout, ça joue aussi dans les têtes, hein, comme tu le disais, à partir du moment où il y a 2 matchs, tu domines et puis finalement tu te prends un but, tu n'arrives pas à le gagner. Petit à petit, malgré tout, tu te mets un petit peu à douter, Antoine Combes, et peut-être que mentalement, il y a eu un petit creux, hein, tu ajoutes à ça les blessures, tu ajoutes à ça l'enchaînement des matchs. On a vu hein, parfois quelques joueurs... sur certains matchs dans cette période-là, un petit peu la tête à l'envers.
Bah, c'est un peu ça me fait penser instinctivement à ce qu'a dit Raphaël Varane quand il a pris sa retraite internationale, où il dit que quand tu enchaînes et que tu n'arrêtes pas d'enchaîner les matchs, à un moment, tu es dans une machine à laver et il faut savoir réussir à en sortir. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé où on n'a fait que jouer tous les 2-3 jours avec la coupe, etc. Les journées en semaine et tous les déplacements. Donc, à un moment, je pense que même si physiquement, tu penses être bien préparé, et sur ça, j'ai aucun doute avec l'arrivée de Laval, mais il y a forcément… C'est comme nous, quand on va au boulot, bah, on n'est pas au top tous les jours.
Ce sont juste des simples êtres humains, comme je disais.
Sauf Guillaume, apparemment. Mais il faut accepter aussi qu'on n'a pas des superstars qui peuvent performer tous les 2-3 jours. Hein. Ce n'est pas une équipe Ligue des Champions qu'on a. Elle peut avoir cette prétention de pouvoir vouloir se qualifier, mais on n'est pas le rouleau compresseur qui va mettre 3-0 tous les week-ends. Donc sur ça, c'est normal. Et moi, d'ailleurs, ça m'a même rassuré qu'ils en prennent conscience quand on repense à la sortie de Seko Fofana qui disait que il faut qu'on fasse beaucoup plus, que moi, en ce moment, individuellement, je suis moins bien. Et c'est déjà la première étape pour rebondir, justement, d'en prendre conscience. Et moi, je préfère justement entendre mon coach et mes joueurs dire que oui, on est moins bien, oui, ça va moins bien, oui, on fait les choses moins bien, que dire mais non, ça va revenir, etc. Donc, prendre conscience des choses, c'est déjà la première étape pour rebondir. Et c'est ce que je disais déjà en tout début d'émission, il n'y a que très, très peu d'équipes qui peuvent faire une saison entière sans connaître ce coup de mou. Surtout quand tu es Lens, tu vas forcément le connaître. Donc, surtout avec l'effectif, et c'est une volonté, mais l'effectif réduit qui est une volonté du club, forcément, dès que tu as 1, 2, 3 pépins physiques, et nous, c'est notamment le cas sur le plan offensif, dans le secteur offensif, et c'est ce qui a pêché notamment sur nos matchs où on tournait à un but par match, voire moins, alors que sur tout le début de saison, tu en claquais au moins 2, ça se voit tout de suite dans les résultats. Mais après, moi, je suis pas inquiet parce que tu regardes Rennes, je pense pas qu'ils sont très contents de leur situation en ce moment, comme le PSG, même si le PSG c'est différent parce qu'ils sont toujours premiers, mais Lens et Rennes ont un peu perdu au classement tout en voyant les adversaires gagner, mais voilà, c'est des choses tout à fait normales dans la vie d'un championnat.
Oui, il y a une certaine logique finalement, et puis la notion cyclique hein, de Sam également, on la voit, et c'est vrai que le temps que les choses se remettent en place, c'est sûr que tu as quelques matchs qui sont déjà passés, et c'est juste une certaine logique. L'important, c'est de s'en rendre compte, et quand tu as un Francaise, hein, malgré tout, à la tête de ton équipe, tu restes relativement serein dans la prise de conscience des choses, et surtout dans la réaction qu'aura l'équipe dans le futur. On va justement, en parlant de réaction, voir comment le Racing va réagir une nouvelle fois après cette victoire face à Montpellier, cette fois-ci à l'extérieur, puisque c'est le prochain match qui attend les hommes de Francaise, déplacement à la Mosson pour la suite de ce championnat de France de Ligue 1. Montpellier lance samedi soir à 21h. Le Racing à l'extérieur est un petit peu moins bien en ce moment, en tout cas dans sa période un petit peu moins bien. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de matchs à l'extérieur. Retour à l'extérieur face à une équipe de Montpellier qui n'est pas la meilleure cette saison, qui a encore changé de coach, le retour de Der Zakarian, une défense des plus perméables. Alors c'était aussi le 4-3, donc ce n'est pas forcément un argument en faveur du Racing Club de Lens. Mais à Montpellier, sans TJ Savanier, Hugues, et ça c'est peut-être la bonne nouvelle pour le Racing Club de Lens.
Oui, moi je pense que ce que Francaise a envie de dire à ses joueurs, c'est s'il vous plaît, on va faire un voyage où on ne va pas en encaisser un seul, ça serait bien, parce qu'on a pris un but à 3, on a pris 2 buts à Lyon, on a pris aussi des buts à Brest, on n'a pas envie de rééditer ça. Et donc, effectivement, un Montpellier affaibli offensivement, qui ne marque que très difficilement en ce moment, c'est l'occasion de retrouver cette solidité défensive qui avait été le gros axe, à mon avis, d'amélioration souhaité par Francaise sur la première partie de saison. Donc, il faut qu'on retrouve ça. Et on a tous les moyens offensifs d'aller marquer face à cette défense qui, effectivement, est l'une des plus mauvaises de Ligue 1.
45 buts encaissés. Alors, c'était le cas de 3, c'était le cas également d'Auxerre, où on a eu les pires difficultés à marquer un but au Stade Bollaert. Guillaume, est-ce que tu sens un Racing revigoré après cette victoire? Est-ce que tu sens que c'est l'occasion d'aller faire un coup et d'aller s'imposer à l'extérieur samedi soir?
Ça serait bienvenu, effectivement, de faire un coup. Après, moi, je vous entends dire Montpellier, Zakarian, 6 points, 4 buts marqués, 0 but encaissé. Hein. Donc, ouais. Il arrive, il resserre les boulons, il connaît la maison. C'est peut-être pas le même Montpellier depuis 2 matchs et qu'on va rencontrer samedi que le Montpellier depuis le début de saison et qui, déjà changé, enfin, elle a déjà eu deux coachs avant Der Zakarian. Donc ouais, c'est pas forcément un match qui sent la confiance de mon côté. Après, ça reste un match de foot, hein, on a toutes nos chances. Mais on aura un Montpellier qui est sur sa dynamique de changement. Alors c'est vrai que quand il y a un changement de coach, ça dure un match, deux matchs, trois matchs, soit ça dure, soit le soufflet retombe. Bon bah s'il retombe samedi, ça va, hein, on prend. Savanier n'est pas là, oui, ok, il nous a fait mal ces derniers temps, notamment il y a deux ans, je crois. Non, l'année dernière.
Au match aller, il nous a pas fait mal du tout. Hein.
Ah, il perd la balle.
Ouais, il nous avait même dubé.
Il pleurniche pour avoir la faute, exactement.
Super passe décisive.
Ouais, c'est ça. Non, mais bon, moi, on serait bien inspiré de faire une clean sheet. Ouais. Un clean sheet, ce serait super. Parce qu'effectivement, on arrive quand même souvent, bon an, mal an, à marquer. Donc, ouais.
Lens, t'as pas gagné hors de ses bases en Ligue 1 depuis la victoire à Angers début novembre. Ouais, tout à fait. Sam, qu'est-ce que tu penses de ce déplacement à la Mosson? Est-ce qu'un Lens qui s'est un petit peu remis la tête à l'endroit hier va pouvoir aller s'imposer sur le terrain de Montpellier?
Alors, malheureusement, je ne lis pas encore l'avenir.
Dommage.
J'espère que c'est pour bientôt. Non, mais après, si tu veux, il y a cette logique, effectivement, on parlait de la victoire à Angers, là, c'était au mois de novembre, c'est ça?
Ouais, en novembre, ouais. Mi-novembre. Début novembre.
Enfin,
début
novembre. Ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a effectivement pas mal de frustration qui a été accumulée sur les matchs à l'extérieur dernièrement par le RC Lens, et qu'à un moment donné, cette frustration, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour aller pour Guillaume parlait des 2-3% supplémentaires. Bon, évidemment, Montpellier, là, ils repartent sur un bon cycle. Guillaume l'a dit, on ne sait pas quand le soufflet va retomber, etc. Voilà, je me souviens d'un match qui m'avait laissé vraiment, pour le coup, je parlais de frustration, très frustré la saison dernière, où de mémoire, Lens perd 1-0, alors qu'ils ont fait une deuxième mi-temps où ils leur marchent dessus sans réussir à marquer. Et puis, j'ai également en souvenir le match il y a deux ans où Lens s'impose 2-1. Donc, c'est des matchs où à chaque fois, Lens s'est procuré beaucoup d'occasions. Et bon, j'ai bon espoir qu'avec un peu de solidité défensive, ça finisse par payer, en fait, tout simplement.
Ouais, on est d'accord. Le Racing qui ne s'est pas imposé à l'extérieur en Ligue 1, mais qui l'a fait quand même en Coupe de France. Donc, c'est possible. Hein, victoire à Brest, victoire face à Lina Montlhéry, victoire au tir au but face à Lorient. C'est possible. Hein, le Racing
merci a Jean-Loup.
Comment?
Non, je dis merci Jean-Loup.
Merci Jean-Loup, exactement. Antoine, comment toi pour ce match face à Montpellier? Tu sens cette équipe du Racing qui a retrouvé la victoire?
Bon, moi je vous spoil un peu le match. Le rapport de force ne va pas exister. On va les écraser. On va prendre quelques contres à droite à gauche avec la vitesse de Mavididi et ou Eli Wahi. Tout se décidera sur est-ce qu'on va pouvoir concrétiser nos premières occasions. Et je pense que la décision sera là. C'est un peu un pléonasme ce que je fais, mais c'est en même temps c'est comme ça que ça va se passer. Mais pour moi, le rapport de force ne va pas exister. On connaît Der Zakarian. Il va mettre il aura beau être à domicile. Je pense qu'on va avoir un petit bus. Et parce qu'il a vu ce que ça a donné contre Nantes. Comment ?
Minibus. Un minibus, pas un grand bus, un
J9.
Et non, mais vraiment, moi, c'est vraiment comme ça que je vois le match, où le Lens va avoir le ballon, et on aime avoir le ballon, donc il va falloir savoir en profiter. Mais vraiment, pour moi, la clé sera le rapport de force et savoir marquer rapidement pour pouvoir vraiment être maître du jeu et laisser aucune chance, aucun espoir à Montpellier, qui ne viendra pas au stade pour faire le jeu, de toute façon.
Ouais, on se souvient du match aller hein, au Stade Bollard, c'était un match compliqué. Hein. Le Racing avait eu beaucoup de mal, hein, hormis cette offrande de TJ Savanier, avait beaucoup de mal à réussir à s'imposer offensivement. Le match a été un petit peu terne, si je me souviens bien. On espère pas voir la même chose à la Mosson samedi. En termes d'équipe, Hugues, est-ce que tu crois qu'on repart sur la même équipe? On voit encore un Florian Sotoka à la pointe de cette attaque, un Pereira da Costa toujours sur le banc alors qu'il a fait une bonne entrée face à Nantes. Comment tu sens un petit peu les choses sur l'équipe de Francaise?
Ouais, j'ai mes coéquipiers qui me donnent des
indications. Chacun son avis en tout cas.
Ils me donnent des indications, ils me permettent de tricher. Non, moi je crois qu'il va y avoir des changements effectivement. Et je pense que Openda va revenir comme avant-centre. Pereira da Costa, il a donné de sérieuses indications sur son état de forme lors de sa rentrée qui était très bonne. Il a été très déroutant pour les défenseurs. Donc, ouais, moi, je vois ces deux-là sur le terrain. Je pense que le dispositif défensif, lui, ne changera pas. Mais offensif, on a énormément de possibilités. C'est peut-être Fulgini qui peut voir sa place menacée, par exemple.
Ouais. Dans le chat, on a Thomas qui nous dit « Silence bat le Montpellier Héros et derrière s'impose dans le derby. L'enflammade va recommencer. On aura oublié ce coup de mouf. » Bon, on verra bien. Guillaume, en termes d'équipe, tu es d'accord avec ce que vient de dire Hugues? Retour de Pereira titulaire, pourquoi pas?
Je suis d'accord avec ce que vient de dire Hugues, mais là, Hugues, il n'a pas été jusqu'au bout parce que du coup, ça veut dire que la troisième place, si Openda et Pereira jouent, c'est Thomasson ou Sotoka. Thomasson est quand même dans une belle forme. Et Sotoka, c'est quand même difficile de mettre sur le banc. Donc, peut-être le dilemme, il va être sur cette place-là. J'ai peut-être tendance à penser qu'il mettrait Thomasson quand même pour lui profiter de son momentum, entre guillemets.
Je suis d'accord avec toi.
Après, sur les sept autres postes, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé. Hein. Les sept plus le gardien, je pense que ça n'a pas bougé.
Ouais, après, l'animation avec, malgré tout, même s'il y a eu un manque de réussite, l'animation avec Sotoka devant et globalement avec les trois de devant en première période face à Nantes, ça était plutôt bonne, hein, était attrayante. Hein, pourquoi pas remettre la même équipe? T'as perdu Sam?
Pardon. Non mais en fait j'ai des coupures. Non en fait juste un petit élément, c'est que le Francaise a dit en conférence de presse qu'il avait été très satisfait par le trio offensif justement. C'est pour ça qu'il l'a remis contre Nantes. Moi je suis pas certain qu'il change. Je suis pas certain qu'il change. S'il y a un changement, enfin moi je veux bien Thomasson et Sotoka rester de toute façon. Et il y a une question qui se pose plus sur Fulgini, je pense, mais je ne suis pas certain du tout.
Et allez, on va finir sur cette projection avec toi, Antoine, sur l'équipe. Je te voyais sur Pereira da Costa être vindicatif. Oui, il faut le mettre titulaire. Est-ce que on met également Openda devant? Est-ce qu'on change les choses ou on garde l'équipe de Nantes?
Ben moi, je voyais déjà da Costa titulaire dimanche. Contre Nantes, donc ça m'a un peu étonné de ne pas le voir parce qu'il avait fait une super entrée contre Lyon, donc pour le récompenser de sa double bonne entrée en plus face à Nantes, et il peut même finir avec un but, donc non pour moi, et par rapport à la prestation un peu plus en dessous de Fulgini, qui est logique, qui est toujours en phase d'adaptation, pour un match à l'extérieur, moi je mettrai titulaire, mais après oui, je rejoins Guillaume, Hugues et Sam sur la troisième place de Thomasson. Est-ce qu'on le laisse ou pas? Moi j'ai envie de te dire, il a marqué, j'ai envie de le laisser, donc laisser Sotoka devant et réutiliser en début de deuxième mi-temps Openda, ça peut être intéressant.
On a quand même une semaine à trois matchs qui va démarrer, hein, avec Nantes en coupe et le derby.
Tout à fait.
Donc c'est vrai que
faut y penser malgré tout. Hein.
Ça va être automatiquement pris en compte. Et moi, je pense quand même qu'Openda, il va jouer parce qu'il va pas, enfin, il va pas non plus être tout le temps remplaçant. Quoi. Donc refaire tourner Sotoka parce qu'effectivement, il y a une semaine qui va être décisive, importante. Importante, ouais. Avec la coupe, mmh. et le derby. Quoi.
C'est deux des matchs les plus importants de la saison, hein, le derby à domicile et un quart de finale de Coupe de France qui peut.
Alors, le plus important sera la finale de la coupe. Là, il y a déjà le quart, mais.
Jusqu'à présent.
Oui, rien n'empêche d'ailleurs de faire également du turnover, même si c'est possiblement plus sur la Coupe de France que ça se fera, sur les pistons notamment. Enfin bref, il va être très intéressant ce match à plus d'une idée, en tout cas, pour ce match face à Montpellier samedi soir, un match eh bien, qu'on va pronostiquer, messieurs, maintenant. Hein. Donnez-moi votre avis après avoir parlé des équipes. Dites-moi comment vous voyez ce score final de Montpellier Héros Lens Hugues.
Une victoire 1-0.
Une grosse victoire 1-0 du Racing. Guillaume.
Un partout.
Sam.
2-1 pour Lens.
2-1 pour le Racing. Et Antoine Combes.
Je voulais le 1-0 avec un but de Fofana, mais du coup, j'y partirai pour 2-0.
2 buts à 0, en tout cas, une victoire, on aimerait beaucoup. Un match nul, finalement, on prendrait aussi ce point, hein, même s'il y a des confrontations intéressantes, hein, ce week-end.
Ben oui, encore.
Qui nous font dire que le Racing ferait bien de remporter sa victoire. Hein. Il y a notamment PSG-Marseille ou Marseille-Paris, je ne sais même plus dans quel ordre.
Marseille.
Il y a Rennes également qui affronte Nantes et puis un Monaco-Nice aussi très intéressant. Si Racing pouvait prendre les 3 points, ce serait plutôt sympa. En tout cas, on verra ce qu'a fait le Racing lundi prochain dans Culture Senior. On débriefera évidemment ce match avec vous. Merci beaucoup d'avoir été présent dans le chat hein, encore ce soir. Vous étiez nombreux à nous laisser des messages. Continuez à le faire, continuez à nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur nos réseaux sociaux, likez nos émissions, commentez et abonnez-vous à notre chaîne puisque ça nous aide beaucoup pour vous proposer ces contenus toutes les semaines. Merci à tous, merci Guillaume, merci Sam, merci Antoine, merci Hugues, merci Alexis à la technique, merci à toute l'équipe de Culture Senior évidemment hein, qui est parfaite et qui vous permet eh bien, d'être à l'actu du Racing Club de Lens régulièrement. On se retrouve dans l'émission lundi prochain. Passez une belle soirée, ciao. Ciao.
Merci à tous.